Dieu, qui est Dieu selon lui-même. Hein. On peut lire beaucoup de livres sur toutes sortes de choses qui disent de lui, mais j'aimerais bien l'entendre lui-même, hein, dire ce qu'il a à dire. Eh bien, c'est ce que nous faisons pendant quelques dimanches. Là, nous avons vu Jésus, Dieu, qui s'est présenté d'abord comme le Créateur. Ça, la Bible commence de cette manière-là. Il s'est présenté comme étant celui qui est, hein, qui est toujours là. Et puis, là, nous allons le voir dans sa grâce, son comportement avec le pécheur. Et comme je vous ai déjà dit, quand vous lisez la Bible, vous pouvez mal la lire parce que si vous ne voyez que le comportement des hommes. Et vous dites, ah, c'est pas possible, c'est ça. Et si vous voyez le comportement des hommes, bah, c'est comme lire le journal quotidien, hein. C'est décourageant. Mais il faut lire la Bible en voyant Dieu et comment il se comporte avec ces gens-là. Et c'est ça qui nous rassure. Et il dit, ah, ben je sais que je serai bien reçu si dans cet état-là, dans cette situation-là, il s'est comporté de cette manière-là, eh bien ça me rassure. Et c'est comme ça que nous devons voir. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 4, donc c'est tout à fait au début de la Bible. C'est un récit qui n'est pas beau, mais qui nous présente un aspect de Dieu qui est très agréable. Donc, nous allons lire les 16 premiers versets de Genèse chapitre 4. Déjà, quand je vous dis le nom Caïn, vous dites « Ouh !» Mais voilà, vous savez ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle traite tous les sujets. Elle n'a pas peur de traiter même les sujets désagréables. Et elle dit vrai, c'est pas juste pour nous faire des fleurs et pour nous caresser dans le sens du poil et tout ça, non, c'est pour nous aider. Hein, donc, Genèse chapitre 4, et je vais lire les 16 premiers versets. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» répondit, « Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui sur cette terre, je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Il est difficile de lire ce passage et ne pas vouloir porter un jugement tout de suite, et un jugement en faveur de celui qu'on voit comme une victime, hein, au premier abord. Hein, dans votre tête, vous avez déjà vu une victime. Et vous savez, c'est la réaction spontanée de voir Abel comme, comme la victime collatérale. C'est Caïn était fâché avec Dieu, et puis c'est Abel qui prend. Vous savez, c'est et puis Caïn, finalement il y a eu une injustice, c'est normal qu'il se fâche. Et c'est comme ça qu'on voit les choses tous les jours, et c'est notre première réaction. C'est un peu comme lorsqu'on voit des clips et on voit une scène, et puis tout de suite à la fin des clips, on condamne, on a une victime et appelle le coupable. Et en général, c'est l'autorité qui est le coupable. Et puis on porte un jugement sans connaître ce qui s'est passé avant que le clip commence à être enregistré. Et nous devons, là aussi ce matin, nous arrêter. Là, on a un petit clip sur une chose qui s'est passée. Mais essayons de comprendre d'abord, avant de porter un jugement trop sévère sur l'un ou sur l'autre, surtout Dieu. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit de Dieu. Et Dieu est juste, toujours juste. Et en même temps, Dieu est miséricordieux. Et donc... C'est quelque part, on se dit, mais non, ça ne peut pas être une injustice, puisque c'est Dieu qui fait. Et puis, la miséricorde est forcément là, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, alors c'est à moi de comprendre. Et essayons, lorsque nous lisons la Bible, un principe de base, c'est d'essayer de dire, mais bon, je ne vais pas douter de Dieu, j'accepte Dieu, mais comment est-ce que je peux comprendre ce qui se passe? Et finalement, ça changera tout pour votre manière de voir la vie et de vivre votre vie. Alors, ce que nous voulons, c'est nous arrêter là, et dire, mais Dieu est un Dieu qui cherche le bien de chacun. Ça, c'est un principe de base. Donc, où est le bien qu'il cherche là? Il appelle le mot bien, c'est ce mot qu'on trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. Il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, c'est ça ici, il dit « c'est ça notre Dieu. » Et donc, ce verset de l'apôtre Paul aux Philippiens, aux Romains, c'est le même Dieu ici. Qui cherche ce bien. Et donc, je veux m'arrêter là et dire, mais je veux comprendre, je vais prendre le temps de méditer un peu pour voir un peu plus la réalité de ce qui se passe. Et si vous avez vu que tous ces ennuis découlent du fait que Caïn refuse de faire les choses, de se conformer aux attentes de Dieu, vous avez bien vu. Parce qu'en fait, c'est là le problème, c'est Caïn qui refuse de faire les choses comme Dieu voudrait. Et c'est le problème de notre monde aussi. C'est pas que les gens ne sont pas sincères, mais beaucoup de nos ennuis proviennent du fait qu'on ne veut pas les faire comme Dieu veut que l'on les fasse. On a inventé toutes sortes d'autres moyens. Lui nous ouvre une porte pour le ciel, et nous on a inventé toutes sortes d'autres moyens pour aller au ciel. Des moyens qui sont beaucoup plus sinueux et des moyens qui ne garantissent pas l'arrivée. Alors que, en Jésus-Christ, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un chemin sûr, il y a une porte ouverte, elle est présentée. Pourquoi aller chercher quelque chose de compliqué? Et de faire appel à d'autres personnes, vivantes ou mortes. Combien de fois on vient « Pasteur, prie pour moi !» J'ai dit, et toi? Toi, tu as accès. Non, je n'ai pas accès. Moi, j'ai le nom de Jésus, et toi, tu as le nom de Jésus. Je veux bien prier avec toi. Je veux t'accompagner. Mais je ne peux pas prier pour toi, à ta place. Et donc, mon titre, c'est Caïn et Abel face à Dieu. Et donc, premièrement, nous allons voir la voix de Caïn, ensuite la foi de Abel. Et troisièmement, la grâce de Dieu. Très simple. Regardons un peu, nous allons concentrer un peu sur Caïn. Vous voyez, sa naissance, il nous dit que quand il est né, Ève dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». En fait, déjà comme n'importe quelle maman, hein, et puis là c'est la première maman du monde, et c'est la première, je ne sais pas si c'est la première naissance, mais c'est le premier garçon qui naît en tous les cas. Peut-être qu'il y avait des sœurs qui sont nées avant, j'en sais rien. Il y avait des sœurs, même si la Bible n'en parle pas, parce que sinon ils n'auraient pas eu d'épouse, hein, donc voilà. Et puis ne soyez pas gênés, dire que c'est de l'inceste, tout ça, la race était pure. Hein, à l'époque, il n'y avait pas toutes les complications qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans des relations consanguines. Donc là, c'est, elle voit cette naissance, et pour elle, eh bien, elle voit plein d'espérance. Vous savez, elle pense à cette promesse, elle se souvient de cette parole de Dieu à Satan, hein, le serpent, dans le chapitre 3, et qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, donc la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. » Et donc, il y a une promesse que comme quoi, oui, d'accord, mais il viendra un descendant de la femme qui vaincra le serpent et qui sera notre délivrance. Donc elle compte dessus. Hein, un descendant de la femme, pas un descendant de l'homme. Hein, donc hein, c'est important que Marie soit vierge. Hein, sinon elle ne pouvait pas être un descendant de la femme. Mais donc elle attend. Et donc le premier né, il est là, elle dit « Ah, ça va être lui. Et, hein, ça doit être lui. » Et j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle l'appelle Caïn, qui est une acquisition. Et plein d'espoir, plein d'espérance. Vous savez, et c'est des mamans qui, quand le bébé naît, elle veut que le meilleur, hein, pour cet enfant, que ce soit un garçon ou une fille, bien sûr. Hein. Et puis on a une maman ici qui attend une petite fille. Alors voilà, hein. Vous pouvez lui demander après ce qu'elle pense et ce qu'elle veut pour sa fille. Hein, elle imagine reine d'Angleterre, peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Mais, vous savez, pensez à Rebecca, hein, donc l'épouse de Jacob, et elle ressentait, pauvre sœur, elle a pris l'impression que la fille est en train de jouer au foot, là, dans son estomac, mais Rebecca, elle sentait que les enfants se heurtaient dans son sein, au point qu'elle a été parler à Dieu, elle dit « Dieu, mais il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et imaginez ses pensées lorsque Dieu lui répond, c'est dans Genèse 25, verset 23, il dit « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et c'est la maman qui s'est dit « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et c'est difficile, hein, de dire « Comment, moi je veux le bien des deux, je veux que les deux réussissent, et déjà ils se disputent et ils vont se disputer et tout ça. » Imaginez, mettez-vous à la place, pour essayer en tous les cas, de Rebecca. Et en plus que cela, mettez-vous à la place de Marie, la mère de Jésus. Hein, quand elle est là, 8 jours après, elle prend le bébé au temple pour le faire circoncire. Et là, il y a Siméon qui arrive et qui dit, qui prend l'enfant et qui dit, entre autres, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et puis, écoutez cette partie. « Et à toi-même, il dit à Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Imaginez, Marie qui entend ça, et mettez-vous à sa place. Quoi ? Cet enfant, il va me faire souffrir ? Vous savez, mais Ève aussi, hein, elle a un fils plein d'espoir, et ce ne sera pas tout de suite, ils deviendront adultes avant qu'elle se rende compte, et ils vont lui apporter de la tristesse. Et elle, alors qu'elle espère avoir un sauveur, eh bien, finalement, elle va trouver celui que 1 Jean, chapitre 3, verset 12, appelle celui qui est du malin. Et c'est... Donc, voilà, Et c'est Caïn, et on est en train de le situer. Ève, son bébé, et il y a quelque chose, dès la naissance, il y a quelque chose, il y a une attitude qui se développe chez Caïn, et il va être résistant, et il va résister Dieu même. On voit que, vous voyez dans ce passage qu'au verset 2, bon, il y a Abel qui naît, puis Caïn devient laboureur. Laboureur, donc il doit extraire sa nourriture de la terre. Et souvenez-vous du chapitre 3, que la terre a été maudite, hein, parce que, à cause de désobéissance d'Adam et Ève, hein, il a été dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Hein, Genèse 3, 17 à 19. Et Caïn se trouve là, et il va devoir travailler pour tirer de la nourriture pour son entretien. Mais, vous savez, mais pendant qu'il est là en train de travailler dans les champs, et en train de le voir travailler, retourner la terre, arracher les mauvaises herbes, il y a Adam et Ève qui se regardent et disent, mais c'est à cause de nous. Hein. C'est parce que nous avons désobéi que lui, il doit peiner, il doit suer. On le voit en train de suer chaque fois qu'il s'arrête et puis il essuie la sueur sur son front et chaque fois qu'il se baisse en se tenant le dos pour ramasser, eh bien, ils se disent, mais à cause de nous, c'est parce que nous avons désobéi, nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et comme Adam était le représentant de la race humaine, eh bien, son acte s'est reporté sur toute la race humaine. Et Caïn doit peiner pour se nourrir. Dites-toi, ça y est. Je comprends, hein, je suis comme vous, mais c'est pas normal. Adam a péché, lui tout seul, il a péché, puis tous nous autres, on doit porter la peine. Ne vous plaignez pas trop tôt, parce que il y a un second Adam qui va venir, qui s'appellera Jésus. Et le second Adam, eh bien, lui tout seul va peiner pour que nous soyons délivrés. Parce que lui sera le représentant d'une nouvelle génération de ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont rachetés par le sang de Christ. Parce que si ce n'était pas un pour tous, eh ben, on serait embêté chacun, il faudrait qu'il trouve un moyen d'être sauvé. Et s'il faut mourir, il y en a un qui meurt pour chacun qui est sauvé, on ne gagne pas. Hein. Mais Dieu a respecté la chose, autant Adam, en tant que le représentant de la race humaine, il nous a entraînés dans le péché. De même, Jésus-Christ est venu, né de la femme, d'une nouvelle génération. Il n'a pas hérité de cette nature pécheresse d'Adam. Et donc, lui, il est le second Adam, il est le dernier Adam, il n'y a pas d'autre après lui. Et lui, il nous permet par la foi de passer d'une descendance, de passer par la foi à une autre descendance, celle de Christ, de devenir frères et sœurs de Christ, enfant de Dieu, et puis ce que lui a fait par son acte, je vais dire Romains chapitre 5, Adam par sa désobéissance nous a entraînés dans le péché, Jésus-Christ par son obéissance nous donne la vie et la liberté et l'accès au ciel. Vous savez, il faut lire toute la Bible, hein, sinon on ne connaît pas tout ça. Hein, il faut la connaître, il y a des belles choses, c'est bien fait. Et donc, ensuite, nous arrivons à ce... Les deux frères, chacun offre, présente une offrande à Dieu. Qui l'a fait le premier, Hein, moi, je me dis, oh, les petits agneaux, ça naît avant la récolte de l'automne. Hein, les agneaux, ils naissent au printemps. Et on pourrait penser qu'Abel était premier. Et puis finalement, à Caïn, il n'a pas fait la même chose. Et lui, il a fait à sa manière. Mais bon, l'un est berger, il offre des agneaux. L'autre est maraîcher et puis il offre des légumes. Où est le problème? Mais il y a quelque part, c'est que Dieu n'approuve pas l'offrande de Caïn. Et il porte un regard favorable à celui de Abel, petit frère. Donc c'est commencé à les grands frères avec les petits frères. Peut-être que vous avez connu ça, vous l'avez vécu. Et puis, et un regard défavorable à Caïn et son offrande. Et Caïn prend ça très mal. Au lieu de poser la question et dire « Dieu, mais j'ai pas compris, tu peux m'expliquer parce que j'aimerais bien ?» Non, lui tout de suite, il y a réaction. C'est très humain, hein, n'est-ce pas, hein? C'est très humain. On réagit, puis après on pose des questions. Et après, il faut rattraper les dégâts. Caïn prend ça très mal, il est très irrité, et ça va jusqu'à voir sur son visage. C'est-à-dire que tout son être intérieur, toute son âme est affectée, et ça se lit sur son visage qu'il n'est pas heureux. Et cela, vous savez, ça arrive tout le temps. Vous avez constamment, et vous l'avez rencontré, peut-être que vous l'avez fait aussi, vous savez, je rencontre constamment des gens qui disent « Dieu, un jour j'ai été et j'ai fait ça pour lui, et j'ai prié, j'ai mis un cierge, j'ai prié, j'ai été à tel endroit, j'ai fait ceci, j'ai rendu... » Bon, chacun il a ce petit truc là, et puis il dit, et c'est comme si Dieu, ben, il n'a même pas tenu compte, il n'a rien fait. Et alors moi, ça y est, c'est terminé, je claque la porte, je ne rentre plus à l'église, je ne veux plus voir Dieu, je ne veux plus lui parler, ne me parlez plus. Et ça arrive tout le temps. Combien ont réagi de cette manière? Comme Caïn. Tu n'aimes pas ce que j'ai fait? Eh ben tant pis pour toi. Et vous savez, la réaction est enfantine, parce que... On se coupe de celui de qui on dépend. Hein, vous avez déjà vu les enfants, hein, qui se cognent la tête contre le mur parce que maman ne veut pas faire ce qu'il demande. Eh oui, mais c'est la tête de qui a mal? Hein, vous savez, on le fait, les petits ils le font à leur manière, à leur niveau, les ados ils le font à leur manière. Hein, et puis après, si ce n'est pas réglé, si ça ressort dans le mariage, et puis alors il y a un partenaire qui le fait à sa manière. Et puis, si ça ne va pas, après, on le fait au niveau national, et on a des manifestations, et puis on a... C'est à tous les niveaux, hein, c'est... Caïn, il est comme nous, et nous sommes comme Caïn, peut-être. Et vous savez, ça nous affecte. Le fait de se fâcher contre Dieu, c'est mauvais pour la santé, je vous dis, votre santé psychique, hein, votre être intérieur. Ça détruit. Et Caïn, eh bien, il est l'expression même de la chose. Vous savez, et David a commis cette faute aussi, hein, de ne pas faire les choses comme Dieu a voulu. Vous vous rappelez quand, je pourrais vous donner la référence, hein, dans Samuel, mais David, un jour, il a voulu déplacer l'Arche de l'Alliance de là où se trouvait chez quelqu'un et l'emmener à Jérusalem, hein, près de là où il habitait, hein, où était sa demeure. Alors, il a rassemblé du monde, il y avait l'orchestre, il y avait la fête, ils louaient le Seigneur, ils adoraient Dieu, et c'était la grande joie. Et il y avait deux hommes qui étaient chargés, on avait mis l'arche sur un char tout neuf, et puis il y avait deux hommes qui étaient là et qui devaient s'occuper de cela. Et puis tous les temps en temps, on s'arrêtait, on louait le Seigneur, on avait un sacrifice, mais c'était la grande joie, et le monde était venu, tout le monde était là. Il y a un moment où, parce qu'ils devaient avoir des nids de poules dans leur route aussi à l'époque, et il y a un moment où c'est le char bascule, et puis il y en a un qui met la main pour rattraper, et il est frappé de suite, et il meurt. Et tout de suite, David, il est fâché, il s'arrête, il dit, bon, on annule tout ça, non, ça va pas, Dieu, il est sévère, là, ça va pas, on essaie de faire quelque chose pour lui, puis sa première réaction était comme ça. Mais par la suite, il a été voir, lire dans l'Ancien Testament, et il a compris que l'Arche de l'Alliance devait être portée sur les épaules quand il était déplacé. Et quand il a vu ce que Dieu demande, eh bien, David, lui, s'est aligné. Il a compris que Dieu voulait les choses d'une certaine manière, eh bien, il est allé, et la prochaine fois, ils ont refait un jour, ils ont donné un grand rendez-vous, mais là, il avait des prêtres pour porter cette arche, et tout s'est bien passé. Le problème à Caïn, c'est que peut-être c'était innocent ou il s'est trompé la première fois, mais Dieu veut lui parler. Regardez, c'est au verset 6, l'Éternel lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dans le sens pour dire, mais c'est pas nécessaire. Hein. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de bonne raison. Ah, combien de fois le Seigneur pourrait nous dire ça, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, il nous dit, mais ta réaction là, mais tu as vraiment besoin de réagir de cette manière-là? Tu as pensé, avant de réagir, de venir me parler, ou de prendre la Bible et de lire? Et regardez ce que Dieu lui dit. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien. C'est-à-dire, si tu fais ce que tu dois faire, si tu fais la bonne chose, eh bien, ça pourrait être autrement. Mais, Caïn, non. T'inquiète pas ce que je fais? Non, je ne te parle plus. Et combien de fois on a pensé la même chose avec Dieu, n'est-ce pas? Caïn va céder à la jalousie. Et il va aller, et la jalousie va l'entraîner jusqu'au bout. Et lui laissera agir la jalousie dans son cœur. Et elle va le détruire. De plus, ça va provoquer un drame familial et l'homicide de son seul frère. L'Éternel l'avait averti, parce qu'il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ou dans un sens, ce tapis à sa porte, il va y avoir l'idée de ce lion-là qui est là et qui attend l'opportunité pour bondir sur sa victime. Il dit, le péché se couche à ta porte. Si tu fais rien, si tu continues comme ça, ta vie est menacée. Mais si tu agis bien, eh bien, ton visage ira mieux ton être intérieur se portera mieux. Et vous savez, c'est vrai pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Si on se laisse avec nos pensées, vous savez, de la jalousie, un peu ou que ce soit de la colère, qu'on ne règle pas, que ce soit de l'amertume qui agit, c'est des choses qui, si on les laisse agir dans nos cœurs, eh bien, ça va nous détruire. Et la victime n'est pas l'autre qu'on voudrait venger, mais c'est nous. Et Dieu lui a dit, domine sur lui, domine sur le péché. Que ce soit pas lui qui t'emporte, mais que ce soit toi qui le contrôle. Et c'est très important. C'est ce genre de langage où, moi je me laisse aller, non, tu laisses aller, ça va pas. pas plus que quand on prend une barque sur une rivière, hein. On se laisse aller, on ne sait pas, ou sur la mer. Il dit domine. Vous savez, Salomon dit à son fils dans les Proverbes, Proverbe 23, 7, il dit que chacun est comme les pensées de son âme. Ce que tu penses, tu deviens, tu es. Là où tu laisses aller tes pensées, eh bien tu deviendras. Donc la question, ce n'est pas la discipline, ce n'est pas de mettre quelqu'un en prison, ou ce n'est pas de le mettre, de lui donner des médicaments très forts pour le calmer. La question, c'est règle ses pensées. Réoriente ses pensées. Et le comportement changera, l'état intérieur changera. L'apôtre Paul dira au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. De Philippiens chapitre 4. Il dit voilà, d'abord les pensées, et puis après le reste, ça ira mieux. Hein, c'est très important. Hein, d'abord, commence. Hein, le problème peut venir de tes pensées. Mais si tu changes tes pensées, eh bien ça réglera ta manière de vivre et la manière dont tu réagis. Et pour nous, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Là, on a un cas extrême, Caïn, qui a commencé à penser, dit « Dieu n'est pas juste, je ne suis pas d'accord », et puis il est parti avec ça. Ça a fait de lui un criminel. Et voilà. Alors que, comme on dit en français, un homme averti en vaut deux, hein. Hein, on est averti. Alors, voyons où sont nos pensées. C'est bon pour la santé. Nous avons vu la voix d'Abel, parce que c'est ainsi que en fait, Jude, chapitre 1, verset 11, il parle de la voix d'Abel, de Caïn, je veux dire, la voix de Caïn. Maintenant, nous allons voir la foi d'Abel. Vous dites, mais bon, je n'ai pas vu la foi, là. Ce n'était pas évident, hein. Mais, vous savez, Abel devient berger, et Abel a présenté à Dieu une offrande de son troupeau. C'est tout à fait naturel. Et le lecteur, la première fois, il lise le passage, il dit, bah, ouais, il y a plus normal. L'un est berger, il offre à Dieu de son troupeau, hein, une offrande de son troupeau, et puis, Caïn, ben, il était agriculteur, ben, il a offert de sa récolte. Et voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, si on regarde de cette manière-là, on va voir Dieu injuste, du fait qu'il est favorable à Abel, et puis il n'est pas favorable à Caïn, et puis on dit, mais c'est pas normal, ça va pas, hein, et c'est pas juste, et on va réagir. Mais la différence n'est pas là. Ce n'est pas le fait d'offrir une offrande qui est le problème ici. Et c'est dans l'épître aux Hébreux, hein, que nous allons être éclairés dans ce passage. Parce que Hébreux chapitre 11 et au verset 4 nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » La différence n'est pas que chacun qui est. La différence, c'est que l'un a offert par la foi et l'autre a offert ses œuvres. Dieu ne veut pas le produit de nos efforts. Il rejettera toujours. Ce qu'il veut est une expression de notre foi. C'est ça qu'il recherche. Il y a, dans notre monde, il y a plein de monde qui sont fâchés contre Dieu parce qu'ils ne reçoivent pas leur offrande. Mais leur offrande, ce sont leurs œuvres. J'ai fait mes prières, j'ai fait mes jeûnes, j'ai fait mes pèlerinages, j'ai fait toutes sortes d'autres choses, mes bonnes œuvres. Et on présente l'offrande de nos efforts à Dieu. Et Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est l'expression de notre foi en lui. Dieu a approuvé Abel, non pas parce que c'était un agneau, mais parce que c'est par la foi qu'il l'a offert. S'il a exprimé sa confiance en Dieu. Et Dieu, encore aujourd'hui, rejette beaucoup d'offrandes et des offrandes qui sont présentées, des offrandes de nos œuvres. Et souvent, c'est des œuvres qui ont coûté, c'est des œuvres qui ont coûté en santé, qui ont coûté en argent, qui ont coûté en temps. Et on veut les présenter à Dieu pour essayer d'obtenir de lui son approbation, sa clémence, son pardon. Mais vous savez ce que Dieu dit ? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, les œuvres, ça ne compte pas dans le salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous devez exercer de la foi pour avoir accès à la grâce, pour que Dieu déverse sa grâce. C'est notre foi qui permet à Dieu d'étendre sa grâce sur nous. J'entends le message de l'Évangile, j'entends parler de l'amour de Dieu, j'entends parler du sacrifice de Christ, en plus il me dit que ça a été fait pour moi, et que si je le reçois, je peux l'avoir, je dis, Père, je te fais confiance, je crois, je reçois, donne-moi ce pardon. Et là il te dit, écoute, là je déverse ma grâce. Je te donne le pardon et ma grâce, et la grâce ça va encore plus loin que le pardon. Parce que le pardon, c'est une chose, bon, tu n'es pas, mais qu'est-ce que je reçois après? Il dit, ma grâce te donne accès à beaucoup de choses. La grâce de Dieu, elle est riche, elle est abondante. Et il dit, c'est vrai, c'est le message biblique, c'est vrai que Dieu... Depuis avant la création du monde, il a déjà préparé sa grâce, elle est là, elle est prête pour être déversée, pour être partagée. Mais il nous dit, il me faut répandre le message, il faut que les hommes le demandent. Et pour qu'ils demandent, il faut qu'ils sachent que ça existe. Donc il a besoin de proclamateurs, il a besoin de personnes qui parlent, des témoins. Il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous parlerez, vous annoncerez, vous direz au monde que je suis prêt à pardonner, je suis prêt, tout est en place, tout est fait, seulement demandez. Et dès qu'on demande, tout d'un coup, ça tombe. La grâce de Dieu abonde. C'est comme si on vous demandait un verre d'eau et puis on vous propose la mer. C'est ça la manière dont Dieu fait. Donc nous avons besoin d'entendre le message. Et lorsque nous entendons le message, je dis, Seigneur, je ne t'amène rien. Je viens et je crois que toi, tu as préparé des choses pour moi. Je veux recevoir de toi. Maintenant, c'est sûr qu'une fois que nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous sommes devenus enfants de Dieu, alors bien sûr, la foi sans les œuvres est morte. Après, si j'ai reçu le pardon, après, il y a des œuvres qui correspondent, mais pas pour gagner le ciel, mais pour glorifier Dieu et pour le remercier pour ce qu'il a fait. Et donc, Abel, c'est pas que Dieu a été injuste, c'est que Dieu, qu'Abel est venu comme il fallait venir. C'est par la foi. Et pour nous tous, c'est encore comme ça aujourd'hui, lorsque nous venons à Dieu, c'est par la foi qu'il faut venir. Pas avec nos œuvres, pas avec, voilà Seigneur, je t'apporte ceci, cela, mon argent, et plein de promesses pour l'avenir. La plupart des promesses, on ne les garde pas. Même les promesses qu'on nous fait nous-mêmes, on ne les garde pas. Alors, je pensais pour lui. Mais non, je viens parce que j'ai entendu que tu m'aimes. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je le crois. Je crois que c'est vrai. Et je veux ce pardon, je veux le retrouver. Et il te dit, et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre. Il dit, entre, tu es mon fils. Comment ? Déjà ? Oui, tu es mon fils tout de suite. Et il nous prend. Hein, que, si le père du fils prodigue, il a pu l'embrasser alors qu'il sentait encore le cochon, pensez, Jésus-Christ peut embrasser les pécheurs, vous savez, encore sales. Mais il l'a fait tout le temps, il l'a fait pendant 3 ans et demi, on l'a vu. Hein. Il marchait parmi les pécheurs. Il ne s'est pas caché dans le temple. Lui, il était dans la campagne en train de marcher parmi les pécheurs. Parce que c'est cela qui l'intéresse. Ah, le message de la Bible, c'est extraordinaire. C'est un plaisir de pouvoir en parler. On a vu, il y a la voix de Caïn, il y a la foi d'Abel, puis alors, déjà, j'en ai parlé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pourquoi ? Et où est-ce que je vois la grâce de Dieu ici ? Eh bien, vous savez, quelqu'un comme Caïn, eh bien, j'aurais pas trop envie de lui parler. Surtout la deuxième fois. Mais vous savez, où je vois la grâce, c'est parce qu'il y a, par 3 fois, eh bien, on a l'Éternel qui parle à Caïn. Et à aucun moment, c'est un homme très bien. Il est fâché la première fois, il est criminel la deuxième fois, et la troisième fois, il se plaint que Dieu est injuste. Mais Dieu lui parle. Vous savez, ça me rassure. C'est cas extrême, c'est ça qui nous rassure. Hein, parce que je suis sûr qu'il n'y a aucun ici qui est aussi mauvais que Caïn. Mais, ça me donne de l'espérance. Sauf que ce récit n'est pas donné pour nous décrire le premier crime commis par un être humain. Hein, c'est pas pour ça que c'est là. C'est cet homicide qui découle d'une jalousie rampante. Eh bien, c'est la toile de fond qui met en valeur la grâce de Dieu. La toile, vous savez, une belle pièce, vous avez déjà vu les beaux bijoux, hein, les bijoux royaux, là. Ils les mettent sur du feutre. Et du feutre, pas une couleur claire, une couleur foncée. Du pourpre, du noir, parce que ça fait. Eh bien, ici, encore, on est en train de. Caïn, c'est le feutre noir, et puis après, on met la grâce de Dieu, là. On dit, ah, que c'est beau! Parce que Caïn n'était pas très rempli d'amour et d'appréciation, d'adoration, de louange, hein, quand Dieu lui a parlé la première fois et lui dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et dans cet état-là, Dieu lui parle et lui dit « Tu sais, je te propose ce moyen de sortir de là, de cet état-là. Je vois que tu es bien malheureux. Je vois que tu n'arrives plus à te saisir, tu n'arrives plus à te rattraper, ça y est, c'est la dégringolade. » Et il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Fais comme je te dis, fais-moi confiance, fais comme je te dis, ça ira autrement. C'est gentil, hein? Peut-être ça vous est arrivé, vous avez été dans une situation en train de vous débattre, la porte qui ne veut pas s'ouvrir, la fenêtre qui ne veut pas s'ouvrir, le bocal qui ne veut pas s'ouvrir, tout ça, puis il y a quelqu'un qui arrive, il dit, écoute, attends, je vais te montrer. Puis ils ont un petit truc là, puis tout, pop, et puis le bocal il s'ouvre. Puis alors, mais si vous êtes têtu et vous dites, non, je vais me débrouiller, et puis vous suez comme un porc, et non, non. Il dit, voilà. Il dit parce que non seulement est-ce que c'est très bien, mais en plus tu es sous la menace. Le péché guette à ta porte. Et dès que tu sortiras, il sera sur toi. Et alors, mais Caïn ne veut pas entendre. Non. maintenant. Tu n'as pas prouvé, je ne parle plus. Et puis après, il part, et puis il rencontre son frère, et puis il se dit, ouais, ben c'est à cause de lui, en plus, hein, que je suis comme ça. C'est pas vrai. Mais c'est à cause de lui. Et donc, bon, peut-être j'irai mieux si je l'élimine. Vous avez déjà pensé ça, hein, si un tel, et on veut qu'une personne soit éliminée, on veut qu'il lui arrive un malheur, on se dit, quelque part, s'il lui arrive un gros malheur, je me sentirai mieux. Ça ne change rien du tout. Et après, Dieu vient lui parler encore. C'est un criminel, il vient de tuer. C'est le premier crime de l'humanité. Et Dieu lui parle. Il dit, Cain, ton frère, il est où? C'est pas que Dieu ne savait pas, hein. Mais Dieu aime bien nous faire dire, nous faire confesser. Il lui donne l'opportunité de confesser sa faute, son péché. Parce que tant que ce n'est pas confessé, on ne peut pas le régler. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Dieu lui dit, Cain, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Bon, là, premier mensonge. Deuxièmement, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Avec une telle attitude, hein, c'est exécrable. Hein, et il savait, mais, et même s'il ne savait pas où il était, mais il dit, ah bon, il y a quelque chose qui est arrivé à mon frère, où il est? Oui. Non, ce n'est pas du tout un comportement de frère qui aime. Et Dieu lui parle. Il dit, tu sais, tu as cru cacher le péché en l'enterrant. Mais moi, le sang crie vers moi. Vous savez, il y a un petit principe là. C'est que pour savoir exactement ce que Dieu pense d'une chose, il faut aller trouver la première fois que ça arrive. De nos jours, on est tellement habitué du sang humain qui coule sur et qui est sacrifié, les gens meurent, on entend parler tout le temps, même on fait des jeux où les gens se meurent, sont tués. Mais il dit, tu sais, chaque fois que le sang innocent est expié, moi je l'entends au ciel. Et je me renseigne sur ce qui s'est passé. Et sachez que c'est vrai depuis ce jour-là. Bon, il ne fait pas un grand bruit, il ne vient pas à chaque fois nous dire « Hé, il est où ?» Pas plus qu'après Ananias et Saphira, ben, ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont été tués. Mais c'est, bon, d'autres ont commis la faute après, ils n'ont pas été tués. Mais pour savoir ce que Dieu pense de ce genre de comportement, eh bien, lisez l'histoire d'Ananias et Saphira. Heureusement que Dieu n'a pas tué tout le monde. Puis vous savez, le truc, il n'y a que deux hommes là, deux frères. Normalement, hein, selon la loi de Moïse, celui qui tue doit être mis à mort. Et alors après là, tout d'un coup, il n'y a plus d'hommes dans le monde. Il a mis Dieu dans les situations difficiles, dans un sens, hein, humainement parlant. Par son comportement, combien de fois Dieu... Nous avons mis Dieu dans une situation difficile. Hein. Notre comportement en tant que chrétien, et puis après, ça fait une mauvaise image par rapport aux incroyants. Il dit, bah, si c'est ça un chrétien, ça sert à quoi? Et ça met Dieu dans un embarras de quelque sorte. Et c'est nous qui l'avons mis. Hein. Moi, je peux plus montrer Cain du doigt. Je remercie Dieu que l'histoire de Cain soit dans la Bible pour que je puisse me voir et que je puisse voir le comportement de Dieu avec un tel homme. Parce que je dis, ben, il aura le même comportement avec moi. Il me proposera un moyen de m'en sortir. Il me parlera. Il me rappellera que, écoute, il y a moyen de régler cela. Confesse ton péché et je peux te pardonner. Et après, Cain, non, il s'entête, il continue, et donc Dieu maudit la terre, donc il ne peut plus être agriculteur, ça ne va rien porter, donc il devient vagabond, et puis il dit, ah, Dieu, c'est injuste. Vous savez combien de fois? Nous, on se comporte mal, nous, on pêche, et après on dit, Dieu, c'est pas juste. ce péché, il se commet tous les jours, encore aujourd'hui. Et vous savez, si j'étais Dieu, heureusement que je n'étais pas Dieu, hein, que je ne suis pas Dieu, parce que moi je leur ai mis deux baffes, au moins. Là, la grâce de Dieu, vous voyez, jusqu'à la grâce de Dieu, combien elle est illimitée, eh bien, il dit que je vois ton sort, eh bien, ce que je mets un signe sur toi pour que personne ne te fasse de mal et que ta vie soit préservée. Un qui n'est pas digne d'être préservé, normalement, il est digne du jugement de Dieu. Et là, Dieu lui dit, écoute, je vais te préserver. Je vais te protéger. Vous voyez la grâce de Dieu. Et Dieu va en fait, il lui accorde la vie pour lui donner le temps encore de se repentir. Et combien de gens courent, vous dites, mais Dieu, comment il se monte et s'il peut tout, et pourquoi il laisse les choses. C'est pas qu'il approuve ce qui se passe, mais il dit, je leur donne le temps de se repentir. Il y a des gens qui vous dites, mais lui, il devrait. Non, Dieu dit, j'aimerais bien le voir se repentir. Et Dieu accorde, et donc il laisse, j'emploie une expression humaine, il laisse pourrir la situation, mais justement pour donner le temps à des personnes de se repentir. Et si Dieu a ce comportement-là, eh bien nous aussi, nous devons l'avoir. Dire Dieu, moi c'est vrai que, bon, c'est. Mais il y a tous les jours des pécheurs qui se repentent, qui sont sauvés. Et Dieu voudrait que, ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et donc il patiente, il laisse pourrir, il laisse les choses dégénérer, et je ne sais pas, moi je ne pourrais jamais les laisser aller jusqu'au point où lui le laisse. Mais il dit, mais c'est parce que sa grâce est là, il sait que sa grâce est suffisante, même si l'homme a été jusqu'à ce point-là, il dit, j'ai encore assez de grâce pour le pardonner, je pourrais le pardonner, le sang de Christ a déjà coulé, Et tous les temps en temps, on lit des histoires de personnes, de criminels, de toutes sortes de choses, qui viennent à Christ et leur vie est transformée. Cain, eh bien, à aucun moment je vois de la repentance chez lui, et il va refuser la grâce de Dieu, il va résister à la grâce de Dieu, et puis il nous dit au verset 16 qu'il s'éloigna de la face de l'Éternel. C'est son acte, c'est lui qui s'éloigne de Dieu, c'est délibéré, et il va dans la terre de Nod, et Nod veut dire exil, hein. Il va en terre d'exil, il s'éloigne, il part, il ne veut pas être avec ceux qui connaissent Dieu, et combien aujourd'hui encore d'autres le font, hein, ils partent, et ils ne veulent plus avoir affaire ni avec les chrétiens, ni avec l'Église, ni avec rien du tout. Ils vont dans les terres de Nod. Mais, vous savez, le message est là. La grâce de Dieu est là. Elle est toujours là. Et à n'importe quel moment, quand, durant sa vie, aurait pu venir à Dieu dire, bah, j'ai mal agi, je te demande pardon, et Dieu l'aurait pardonné. Mais il a besoin de le demander. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous avons l'option, la voix de Caïn, la foi d'Abel, et de demander la grâce de Dieu. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces paroles. Et Seigneur, alors que c'était une histoire qu'on trouvait répugnante, finalement, il y a un message de grâce. Et Seigneur, notre attention n'est pas sur la toile de fond, notre attention est sur le bijou, sur la grâce de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire dont nous avons tant besoin. Père, tu connais chaque cœur ce matin, tu sais dans quel état se trouve chacun. tu sais, ce qu'on a pu avoir, même si on est enfant de Dieu, parfois on se laisse emporter par certaines choses, de pensées qui nous font souffrir. Mais Seigneur, nous voulons venir à toi, parce que tu nous dis, si tu fais ce qui est bien, ton visage se relèvera. Et tu nous le dis encore aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas venir à toi avec nos œuvres, nous voulons venir à toi avec notre foi, notre confiance en toi, et vivre les œuvres que tu nous as préparées d'avance. Père, merci pour ta parole, et bénis ces moments ensemble. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.